tout le chapitre. Nous allons déborder un peu sur le chapitre 16 jusqu'au verset 3. Moi, je suis le cep de vrai, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purifiés, émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous me serez des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi, et mon Père. Et que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Donc c'est ça, c'était dans le psaume 69 que nous avons écouté. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir, pensera rendre un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que leur venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Je suis le cep, le véritable. Vous, les sarments. En disant cela, Jésus crée la situation dont il parle, que lui est le cep. Moi, ça, il ne le crée pas, mais il crée la situation que nous sommes les sarments. Vous voyez que les paroles de Jésus créent les choses, créent la réalité dont ces paroles sont porteuses. Quand j'étais ado, je lisais ces textes. Je me disais, je vais m'efforcer d'être le sarment. Mais non. Le sarment, il n'est pas là, comme ça, en train de se balader dans la vigne. Et, tiens, je vais choisir un cep, là, pour me mettre dessus. Jésus nous met lui-même, déjà, en lui. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire, comprenons-nous ça déjà? C'est déjà la base. Que nous n'avons, comme il le dit, vous ne m'avez pas choisi. Ça va ensemble. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire on n'a pas choisi. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est pour ça que nous sommes les sarments.
Mathieu, je peux dire quelque chose, s'il te plaît?
Oui.
Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit quelque
chose. Amen.
C'est intéressant de voir, ça m'a frappé quand tu l'as lu. Jésus, il ne dit pas qu'il est la vigne.
Ah oui, je vais y arriver. Mais vas-y, dis-le.
Oui, non.
Vas-y.
Parce qu'il ne dit pas qu'il est la vigne. Parce que la vigne, puisqu'on l'a dit, c'est Israël, il dit qu'il est le cep, parce qu'il est le vrai cep, celui de Judas. C'est pas un autre cep. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres cepes dans la vigne.
Ah oui, un merlot, quoi.
Et, oui, d'autres cepes dans la vigne, et c'est pour ça que dans le chapitre 16, il dit les autres, ou Aéron, tout ça. Ce sont les autres cepes qui font partie aussi de cette vigne.
Oui.
Voilà, c'est j'avais jamais vu ça, quoi. C'est...
Oui. En tout cas, Jésus est le cep, le véritable, il n'y en a pas de. C'est très important. Et donc, comme le dit Gérard, ici, Jésus ne dit pas « je suis la vigne », même s'il y a des traductions qui traduisent comme cela.
Voilà, c'est ça qui est.
Parce qu'en grec, « vigne », ce serait au neutre, « ampelon », et là, c'est le mot « ampelos » au masculin. Donc, au masculin, ça veut dire le cep, et au neutre, ça veut dire la vigne. Et Jésus dit « je suis le cep, le véritable, vous, les sarments ». Donc déjà, il a créé quelque chose qui n'était pas dans notre choix à l'origine. Il nous a mis en lui. Maintenant, après, c'est notre choix de rester en lui. Ça, c'est notre choix. C'est sur cela qu'il va insister. Il a créé l'alliance et il nous a déjà mis dans l'alliance. Vous voyez, il y a dans Ésaïe, une parole du Seigneur que le prophète nous a transmise à propos du serviteur qui va venir, que tout le monde va rejeter. Mais Ésaïe dit, de la part de Dieu dit, je te donnerai comme alliance du peuple. Vous voyez, c'est très différent que de dire Jésus a simplement fait une alliance. Il est lui-même l'alliance. Parce que quand Jésus dit « Je suis » dans l'évangile de Jean, très souvent, il se met du côté de Dieu en disant « Je suis ». Par exemple, dans Jean 8, avant qu'Abraham fût « Je suis ». Là, il est vraiment, en disant « Je suis », du côté de Dieu. Mais quand il dit « Je suis le sept », comme le dit Gérard, il se met du côté d'Israël. Parce que, nous avons lu Ésaïe 5, Israël, c'est la vigne. Donc Jésus, il est aussi bien du côté homme que du côté Dieu. Et en étant ainsi des deux côtés, il fait l'alliance dans sa personne. Cette alliance, elle a été faite en lui. Nous n'avons pas à nous efforcer d'entrer dans une alliance, dans l'alliance du Christ avec Dieu. Nous sommes déjà dedans. Le sarment est déjà dans le cèpe. C'est ce que Jésus dit, c'est une situation nouvelle. Comment a-t-elle été créée, cette situation, que nous sommes maintenant des sarments? Le texte de Jean 15 vient après celui de Jean 14 et de Jean 13. Donc il faut avoir lu avant. Et qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a le dernier repas. Le dernier repas où on nous dit que Jésus va aimer à la perfection. Jean 13, verset 1, il les aima jusqu'à un achèvement ou une perfection. On peut traduire de plusieurs façons, mais il les aima à la perfection. Il les aima au moment où il a été troublé dans son esprit par le fait qu'en manifestant maintenant l'amour parfait de son Père, il a dû assister à la sortie de Judas dans la nuit qui va le livrer. Il a été troublé, mais il a vaincu ce trouble en aimant. C'est là que nous avons été posés dans le cèpe avec les disciples qui sont restés. Nous avons été posés dans le cèpe, greffés dans le cèpe. Nous n'avons pas choisi Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Combien de fois il faut se le redire? Parce qu'il y a une erreur quand on réfléchit. On peut mal prendre les paroles de Jésus. Il faut porter du fruit. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de catastrophique dans la mentalité moderne des Occidentaux, en tout cas. Il faut être rentable. Et cette mentalité, elle s'est infiltrée dans l'Église. Ah oui, il faut que je porte du fruit. Alors les gens se culpabilisent parce que, qu'est-ce que j'ai fait comme fruit pour Dieu? C'est pas nous qui contrôlons le fruit. D'abord, ça ne provient pas de nous. Donc, il faut être simplement un cep. Et tout le travail pour qu'on porte du fruit, il est fait par le vigneron. Et c'est peintre, et c'est donc de l'émondage. Et le verbe employé ici dans le texte, pour émonder, je vous l'ai dit, ça veut dire purifier. Dieu fait un travail d'émondage sur nous, sur le cep, pas sur le cep, sur les sarments, pardon. Les sarments sont tout le temps émondés, tout le temps coupés. Ah non, ça, je vous garantis, je ne l'aurais pas choisi de moi-même, ça, d'être tout le temps coupé, Le sarment, s'il avait le choix, encore une fois, vous voyez là, l'importance qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas choisi nous, Jésus, qu'on n'a pas choisi notre vigneron, c'est qu'il nous coupe. Il nous purifie. Mais ce n'est pas à l'aveuglette comme ça. Les vignerons, ils connaissent les techniques pour que le cep, avec les sarments, produise beaucoup de fruits. Le sarment, lui, s'il lui laissait le choix, il s'étendrait à perte de vue. J'ai un cep de vigne sauvage là dans mon jardin. Ça va vite, les sarments. Faut presque courir pour les rattraper. Non, j'exagère, je suis un peu marseillais. Ça s'entend pas dans mon accent. Non, mais le sarment, il est tout le temps coupé, tout le temps. Tout le temps, et après il y a du fruit. Nous ne contrôlons pas ce travail que Dieu fait sur nous. Et nous devons accepter ce travail. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que notre amour ou notre façon de voir l'amour. Jésus nous parle d'un amour que nous ne connaissions pas. Et quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est bien de l'amour dont le Père a aimé Jésus, dont Jésus nous a aimé. C'est un amour en cascade et qui n'existe, que nous ne connaissions pas. Que nous ne connaissions pas avant que Jésus vive cet amour pour nous. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. C'est là au verset 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que celui qui a déposé sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est encore un peu différent de celui qui se sacrifie pour sauver quelqu'un. En Afghanistan, il y avait des soldats français. Il y en a un qui, à Clermont, ses parents sont à Clermont, il est mort en voulant sauver son camarade qui était tombé dans une rivière en crue. Il s'est noyé aussi. Il a donné sa vie pour l'autre. Mais là, Jésus parle encore d'un amour qui est le plus grand. Il n'y en a pas de plus grand. Et chaque fois que Jésus parle de plus grand dans l'évangile de Jean, il renvoie au Père. Parce que le Père est plus grand que Jésus, dit Jésus. Le Père est plus grand que moi. Donc c'est l'amour vraiment du Père. C'est un amour que nous ne connaissons pas. Parce que la preuve qu'on ne le connaît pas, c'est qu'il y a la haine du monde. Cette haine, nous en sommes capables aussi. J'ai haï avant d'aimer. J'ai haï Jésus avant de l'aimer, sinon il n'y aurait pas la croix. Je me mets dans la catégorie de ceux qui ont haï Jésus. Maintenant, il me demande de rester. Maintenant que j'ai compris qu'il m'aime, il me demande de rester dans son amour. Cet amour, je ne le connais pas autrement que par lui, parce qu'il vient du Père, qui est plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour. Et le verbe que Jésus emploie ici, c'est pas le verbe donner, excusez-moi, la traduction est mauvaise. Il n'y a pour personne de plus grand amour que celui qui a posé sa vie. Ou bien on peut traduire ce verbe en grec. Il est réutilisé au verset 16. Et là, il est traduit différemment. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Vous voyez, c'est le même verbe. Là, il est traduit par le verbe établir. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il nous a posé, nous aussi, dans le sens de établir. Jésus a établi, a institué sa vie pour qu'elle soit notre vie. Ça, c'est plus que donner sa vie. À quoi ça nous servirait qu'il ait donné sa vie pour nous et qu'il soit mort? Non. Il est mort, mais il est ressuscité. Alors sa résurrection, elle est aussi à nous? Ben oui, c'est exactement ce qu'on nous dit sans arrêt. Sa résurrection, elle est à nous. Il n'est pas ressuscité tout seul. C'est le sens du baptême que nous avons donné à Yvan, là, dans l'Allier, dans l'Adour. Dans l'Adour, tu étais mort dans l'eau, quand tu es sorti de l'eau. Tu étais aussi mort encore? Non, tu étais ressuscité dans le Christ. C'est le signe de le baptême, c'est le signe d'une mort et d'une résurrection dans le Christ. Donc la résurrection de Jésus, elle a été posée pour nous. Allez, c'est à vous. Nous avons été institués là-dedans, posés là-dedans, et nous n'avons pas fait ça. Comprenons bien. Nous ne nous sommes pas posés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Sinon, ne demandez jamais le baptême si vous n'avez pas compris que ça ne vient pas de vous. Que le Père vous a mis dans le Christ, dans sa mort, dans sa résurrection. Et que cette mort et cette résurrection de Jésus, ça c'est l'amour du Père qui veut nous engendrer. qui nous a engendrés, qui nous a mis dans le cep. Et maintenant, le cep, il reçoit. Le cep, oh là, vous m'arrêtez, il y en a qui suivent là. Le sarment, hein? Le sarment, il reçoit, il pompe. Vous pouvez pomper tant que vous voulez dans le cep. Il ne sera jamais épuisé, le cep. Il y a des racines. Ça va loin. J'ai visité des grottes en Ardèche. Il y avait des racines de vignes qui pendaient du plafond de la grotte. La vigne devait être, je ne sais combien de dizaines de mètres au-dessus. Ça va loin, les racines d'une vigne. Je suis quand même impressionné quand Dieu dit dans Deutéronome 7, je garde ma grâce jusqu'à 1000 générations. Il exagère, il est marseillais, Dieu. Ah, croyons pas qu'on a inventé, nous, notre grâce. Ah, on est le début de tout, nous. Oh non. Il y en avait des milliers avant, des générations. Peut-être sommes-nous bénis aujourd'hui à cause d'un ancêtre que nous n'avons même jamais connu, mais Dieu le connaît. Dieu le connaît. Et 1000 générations après, il y a toujours la grâce. Dieu n'oublie pas. Il a de la suite dans les idées. Donc Dieu nous a mis dans le cep. Je suis le cep, vous, les sarments. On n'a pas choisi. Maintenant, on a le choix. C'est maintenant que ça commence, le choix. Demeurez en moi, dit Jésus. Ah là, nous avons le choix. Ah oui, là, nous avons du choix. Le choix, il commence maintenant pour nous. De notre côté, maintenant, le choix commence. Demeurez en moi, il le répète. S'il le répète, c'est que c'est important. Demeurez en moi, moi en vous. Et puis, on dirait qu'il veut même nous faire peur, parce qu'il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, ramasse, brûle, terminé. Jésus ne veut pas nous faire peur, mais il dit la réalité. La réalité de notre condition, l'importe, le sérieux, le caractère. Dieu nous prend au sérieux. Il nous aime. Et s'il nous a aimés, c'est qu'il nous prend au sérieux. S'il nous a sauvés sans qu'on y soit pour rien, c'est qu'il nous a pris au sérieux. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'humour sur soi-même, justement, quand on se prend au sérieux. Enfin, bref. Non, justement, il ne faut jamais se prendre au sérieux, mais il faut prendre au sérieux la parole de Dieu qui nous dit maintenant, c'est le choix, il y est pour vous, maintenant vous avez le choix. Il se passe beaucoup de choses dans nos réunions de prière. On est beaucoup moins nombreux, mais il se passe beaucoup de choses. Et par Colette, oui, c'était Colette, c'est Colette qui nous a fait partager un texte sur Fabrice Hadjadj. Colette, hein. J'ai découvert cet auteur, Fabrice Hadjadj. C'est un juif nihiliste qui était vraiment athée, et puis très, très grand intellectuel, très grand érudit. Vraiment athée. Puis il est devenu croyant, parce que le Seigneur est allé le chercher, tout simplement. Hein. Pas chercher le midi à 14h. Devenu croyant et croyant, alors catholique, hein, lui. Alors, on lui a demandé de témoigner partout. Tout au bout d'un moment, ça commençait à l'énerver, ça. Parce qu'il s'est rendu compte que l'Église, elle est bien contente quand quelqu'un se convertit. Ah, ça y est, il y a un poisson qui a mordu à l'hameçon. Voilà. Il est des nôtres maintenant, voilà. Il est arrivé, mais c'est maintenant que ça commence, au contraire, l'aventure. Et c'est maintenant que ça devient sérieux. Parce que Jésus ne dit pas aux autres qui sont pas sur lui, vous allez être jetés dehors. Non, non.
Il dit ça à ceux qui sont déjà en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, portez beaucoup de fruits. Il dit, c'est très risqué d'être chrétien. Hein? Réfléchissez avant de vouloir être chrétien. Jésus lui-même l'a dit. Hein? Calculez avant de décider hein, si vous voulez être chrétien. Réfléchissez avant. Je prends pour moi. Mais nous voyons combien ça devient sérieux parce que Jésus après nous parle de la haine du monde. Et cette haine du monde, nous avons à la vivre. D'abord, nous en faisions partie, donc on comprend très bien que le monde est ce qui ne comprend pas et ce qui provient d'ailleurs de Dieu, du Père. Il ne connaît pas le Père, le monde. Jésus donne presque une excuse à cette haine. Bon, elle est gratuite. Hein. Et il donne une nouvelle définition aussi du péché. Si je n'étais pas venu, que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Vous imaginez ça? Ils donnent une nouvelle définition du péché. Pour nous, le péché, c'est clair. C'est celui qui tue, qui vole, qui ment, qui coupe en morceaux les gens, comme font beaucoup d'islamistes, ils coupent les gens en morceaux. Ou même des mafieux. La cruauté n'a aucune limite chez l'être humain. Et Jésus ne dit pas que c'est ça le péché. Il ne dit pas ça. Il dit, si je n'avais pas parlé, je n'aurais pas péché. Si je n'avais pas fait des œuvres que nul autre n'a faites, je n'aurais pas de péché. Parce que maintenant, ils peuvent connaître le Père. C'est maintenant que par les œuvres que je fais, par les paroles que je dis, maintenant vous êtes en face du Père. Vous ne le connaissiez pas avant, maintenant vous connaissez le Père. Et si vous n'en voulez pas, c'est ça le péché. Alors comment Jésus définit le péché? Je peux vous le prouver dans l'Évangile. Hein. Il y a même une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Hein. J'aurais été le premier moi à jeter la pierre, franchement. Ben Jésus dit, non, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mais son péché d'adultère, il lui a pas reproché. Il a dit, je ne te condamne pas. Une nouvelle vie est possible. Il ne parle pas du péché comme nous, on en parle à cause de la loi. Bien sûr, ça, c'est en arrière-fond. Mais avec la venue de Jésus, le péché prend une autre dimension. Ce n'est plus ce péché-là qu'on a l'habitude d'en parler avec les 10 commandements. Jésus était le plus sévère avec les gens qui connaissaient la loi et qui aimaient Dieu. C'est avec eux qu'il était le plus sévère. Vous aimez Dieu, mais vous fermez la porte du royaume de Dieu aux autres. Ben, c'est pas simple, la vie chrétienne. Hein, on doit vraiment porter du fruit. Sinon, Dieu n'aurait pas pris la peine de planter ce cep sur terre, Jésus. Il n'aurait pas pris la peine de planter ce cep et de mettre des sarments dedans. Il a pris beaucoup de peine. Il nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui dépose sa vie, qui la pose et qui l'institue pour que les autres en profitent. Voilà ce que Jésus nous dit. Et prophétise sur le temps actuel que nous sommes en train de vivre. Jésus dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu, à Allah. Allez, on égorge les juifs, on égorge les chrétiens. C'est un culte à Allah, ça fait plaisir à Allah. Et Jésus dit, ils agissent ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Il n'est pas simplement un prophète, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui accomplit l'alliance, qui est lui-même l'alliance. Il est venu nous trouver. Nous n'avons plus besoin de le chercher, il est venu nous trouver. C'est le sens des paraboles qu'on a dans Luc 15. Je vous une petite parenthèse. Dans Luc 15, vous avez trois paraboles. La brebis perdue, la pièce d'argent perdue, retrouvée, chaque fois perdue, retrouvée, perdue, retrouvée. Et puis dans la troisième, il y a aussi perdue, retrouvée, pour le fils. Il était perdu, dit le père. Et il est revenu, il est retrouvé, il était mort. Et il est ressuscité. Eh bien, c'est Jésus. Il était mort. Pour nous, il était perdu. Mais il est retrouvé. Il est ressuscité. L'alliance est faite en lui. En lui, c'est Dieu qui nous a trouvés. En lui, l'alliance est établie. Et voilà pourquoi vous pouvez tout oublier ce que je vous ai raconté, hein, là. Mais n'oubliez jamais cette parole. Je suis le cèpe. Vous, les sarments. Maintenant, on a le choix de demeurer ou de ne pas demeurer. Et ce choix, c'est en pompant la sève. Qu'est-ce qu'il y a dans la sève qui vient du cèpe vers le sarment? Ben, il y a la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord... Je vais dire trois choses. La vie de Jésus, c'est trois choses. C'est l'amour. Le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Aimez-vous de cet amour. Deuxièmement, c'est la prière. Ah oui, c'est la prière aussi. Parce que Jésus parle plusieurs fois. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez, 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 demandez. Et cela vous sera accordé. À la vie de prière, ce n'est pas optionnel. Ah ben, je prie à table, encore. Bon. Je prie un petit peu le matin, deux minutes, voilà. C'est pas mal, hein. Bon, pas critiquer tout ça. Mais Jésus priait. Si Jésus priait, c'est que la vie de prière fait partie de la sève qui va passer dans le cèpe, du cèpe dans les sarments. Sa vie de prière aussi, ça fait partie de la vie qui vient du cèpe, qui va passer dans le sarment. Alors si nous ne savons pas prier, il faut réfléchir, Seigneur, apprends-moi à prier. Alors, à dire, au moins faisons cette prière-là. Et puis passons du temps à prier. Parce que le fruit, nous voulons, nous, voir du visible. Mais Jésus, est-ce qu'il voit du... Le sarment ne contrôle pas le fruit. Il ne contrôle pas non plus le cèpe. Mais il ne contrôle pas le fruit non plus. Il y a des gens, visiblement, on voit rien, s'ils portent du fruit. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Pardon?
La troisième chose, c'est quoi?
Et la troisième chose, garder mes commandements. On peut se dire, mais Jésus, garder les commandements de Dieu? Ben oui. Ben oui, garder les commandements. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Il dit, moi j'ai gardé les commandements de mon Père, ben vous aussi gardez mes commandements. Il garde les commandements de son Père. Et il résume ça dans l'évangile de Jean, je sais que son commandement est vie éternelle. Je sais que son commandement est vie éternelle. Voilà pourquoi il y a la vie éternelle sur terre déjà. Parce que Jésus a écouté les commandements de son Père et il les a pratiqués. C'est exactement la vocation d'Israël. Nous avons vu, Israël avait ses commandements, continue à pratiquer les commandements de Dieu. Jésus nous a institué, je vais encore dire une dernière chose, hein, ça devient un peu long. Hein. Il nous a institué, déposé dans sa propre déposition. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, il a déposé sa vie, et en déposant sa vie, nous avons été déposés dedans. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Hier, je suis allé à la synagogue. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu le temps d'y aller. La paracha, c'était sur la révolte de Korach, en français Corée. Qu'est-ce que c'était cette histoire-là? Dans le désert, dans Nombre 11, on nous dit... Ben voilà, il y avait un chef d'une tribu de Lévite, il dit, mais oh, Moïse, Aaron, là, vous vous mettez par-dessus nous, hein. Vous avez dit qu'il n'y a que les descendants de Aaron qui sont des prêtres. Mais pourquoi nous, on ne serait pas prêtres, non, nous, on est de la tribu de Lévi. Oh, mais... C'est là qu'il y a dans l'hébreu, création nouvelle. Dieu a fait une création nouvelle à ce moment-là. Et c'était quoi la création nouvelle? Toute la famille de Korach, toute sa famille, avec tous ceux qui se sont associés à cette revendication de devenir prêtre, par leur propre décision. La terre s'est ouverte et s'est refermée sur eux. Il n'en avait plus. On ne choisit pas d'être prêtre. Dieu a fait une création nouvelle pour qu'on comprenne bien que devenir prêtre, ce n'est pas nous qui le décidons, mais si Jésus l'a décidé pour nous, et c'est ce qu'il a fait quand il dit ici, je vous ai institué.
C'est au verset 16, je vous ai institué, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen.